troisième considération. Nous en sommes à la troisième considération, c'est-à-dire à l'apparition séraphique et à l'impression des sacrés et saints stigmates. La fête de la Très Sainte Croix du mois de septembre approchait. Une nuit, que frère Léon était parti, à son ordinaire, pour réciter matine avec saint François, il arrive à la tête du pont et crie les paroles d'usage. Le saint ne répond pas. Le frère avance cependant en toute simplicité. Il traverse le pont, entre doucement dans la cellule, et n'y trouvant pas saint François, il va droit au bois et l'y cherche, sans bruit, à la clarté de la lune. Bientôt, il entend sa voix. Il s'approche et le trouve priant à genoux, les mains et les yeux tournés vers le ciel. Qui êtes-vous, ô mon Dieu, mon très doux Seigneur, s'écriait-il brûlant de ferveur. Et qui suis-je, moi? Un misérable vermisseau, votre inutile serviteur. Et il répétait continuellement ces mêmes paroles. Frère Léon, étonné, lève les yeux, regarde, et il voit descendre du ciel une flamme d'une clarté éblouissante qui vint se poser sur la tête du saint. De cette flamme sortait une voix qui lui parlait, mais frère Léon ne pouvait distinguer les paroles. À la vue de ce prodige, se croyant indigne de demeurer si près du lieu où même il s'opérait, craignant d'ailleurs d'affliger saint François et de le troubler dans sa contemplation, le bon frère s'éloigna doucement et se contenta de regarder de loin. Alors, frère Léon vit le saint étendre trois fois les mains à la flamme, qui, après s'être arrêtée longtemps sur lui, finit par remonter vers le ciel. Le bon frère se félicitait de n'avoir pas été remarqué, et déjà il reprenait le chemin de sa cellule. Mais en ce moment, saint François entendit le froissement de ses pieds sur le feuillage et lui ordonna de s'arrêter. Le frère obéit tout tremblant et tellement troublé, comme il le racontait ensuite à ses compagnons, qu'il aurait mieux aimé voir la terre s'entr'ouvrir sous ses pieds que d'attendre alors le saint, qu'il croyait avoir mécontenté. C'est qu'en effet, frère Léon évitait, avec tout le soin possible, ce qui pouvait blesser le Saint-Père, dans la crainte de se voir, par sa faute, éloigné de sa compagnie. Cependant, saint François le rejoint. « Qui êtes-vous ? » lui demande-t-il. « Mon père, » répond le frère avec embarras, « je suis frère Léon. Pourquoi donc es-tu venu ici, ô frère, ma chère petite brebis ?» reprit le saint. « Ne t'avais-je pas recommandé de ne pas observer ainsi mes démarches ? Mais réponds-moi maintenant par la sainte obéissance. As-tu vu ou entendu quelque chose de ce qui vient de se passer ?»« Père, » répondit frère Léon, « je vous ai entendu répéter plusieurs fois. » Qui êtes-vous, ô mon très doux Seigneur? Et moi, qui suis-je? Un misérable vermisseau, votre inutile serviteur. Alors, tombant aux pieds de saint François, frère Léon s'accuse de sa désobéissance et en demande le pardon avec larmes. Ensuite, il supplie le saint de lui expliquer les paroles qu'il avait entendues et de lui répéter celles qui lui avaient échappé. Voyant qu'en faveur de sa simplicité et de sa pureté, l'humble frère avait mérité de voir et d'entendre quelque chose du prodige qui venait de s'opérer, saint François consentit à le satisfaire. Ô frère, chère petite brebis de Jésus-Christ, sache donc qu'au moment où je répétais les paroles que tu entendais, deux lumières venaient éclairer mon âme, celle de la connaissance et de la science de moi-même, et celle de la connaissance et de la science du Créateur. Quand je disais « Qui êtes-vous, ô mon très doux Seigneur ?» j'étais dans une lumière de contemplation qui me faisait découvrir l'abîme de l'infinie bonté, de la sagesse et de la puissance de Dieu. Et quand je disais « Qui suis-je, un misérable vermisseau ?» j'étais dans une lumière de contemplation qui me faisait découvrir la triste profondeur de ma bassesse et de mes misères. Et c'est pourquoi je répétais « Qui êtes-vous donc, Seigneur, Dieu d'une sagesse et d'une bonté infinie, pour daigner me visiter, moi ?» qui ne suis qu'un misérable et vil insecte. Dans cette flamme que tu apercevais, se trouvait Dieu lui-même. C'est lui qui me parlait sous cette forme, comme il avait fait autrefois à Moïse. Il me demandait que je lui fisse trois dons, et moi je lui répondais, « Mon Seigneur, tout ce que je possède est à vous, vous le savez bien. Je n'ai que ma tunique, ma corde et mes vêtements de dessous. Et encore, tout cela vous appartient. Que puis-je donc présenter à votre majesté ? Alors Dieu me dit, cherche dans ton sein et offre-moi ce que tu y trouveras. Aussitôt, j'y portai la main et j'y trouvai une petite boule que j'offris au Seigneur. Et je fis ainsi par trois fois, selon qu'il m'avait été ordonné. Et puis trois fois aussi, je me prosternais, bénissant Dieu et le remerciant d'avoir bien voulu me donner quelque chose que je puisse lui présenter. En ce moment, une lumière intérieure me fit comprendre que ces trois dons que j'avais faits signifiaient la sainte obéissance, la sublime pauvreté et la splendide chasteté. Vertu que, par la grâce de Dieu, j'ai pratiquée avec tant de fidélité que ma conscience ne me reproche rien. En même temps que tu me voyais porter la main à mon sein pour offrir les trois vertus signifiées par les boules d'or qui m'avaient été données, le Seigneur m'accordait encore la vertu de louer et d'exalter, de bouche et de cœur, la très sainte bonté qu'il m'a témoignée en me comblant de tant de faveurs et de tant de grâces. Voilà quelles furent les paroles que tu as entendues au moment où tu me vis lever les mains par trois fois. Mais je te le répète, frère, chère petite brebis, ne viens plus observer ainsi mes démarches. Retourne à ta cellule avec la bénédiction du ciel et prends toujours bien soin de me procurer ce qui m'est nécessaire. Car bientôt, Dieu doit opérer sur cette montagne des prodiges si grands et si merveilleux que tout le monde en demeurera dans l'étonnement et que jamais aucune créature n'en aura vu de si extraordinaire. Saint François apprit par révélation qu'en ouvrant par trois fois le livre des évangiles, Dieu lui ferait connaître les désirs qu'il avait sur lui. Il se fit donc apporter ce livre sacré, et s'étant mis en prière au nom de la très sainte Trinité, il le fit ouvrir trois fois par frère Léon. Dieu permit qu'à chaque fois, il tombât sur le récit de la passion de Jésus-Christ, et le saint comprit par là que comme il s'était rendu conforme au Sauveur dans les actions de sa vie, il devait encore, avant de mourir, le suivre dans les afflictions et les douleurs de sa passion. Dès lors, il eut la consolation de goûter et de sentir avec plus d'abondance la douceur de la divine contemplation et des célestes apparitions. Un jour, il en reçut une qui devait le préparer immédiatement à l'impression des sacrés stigmates. C'était la veille de la très sainte croix du mois de septembre. Au moment où il était seul et en prière dans sa cellule, l'ange de Dieu lui apparut et lui dit « De la part du Très-Haut, je viens t'avertir de te disposer avec humilité et patience à recevoir ce qu'il lui plaira de t'envoyer. Je suis prêt à supporter avec résignation tout ce qui me viendra de mon Seigneur, répondit saint François. Et l'ange disparut. Le lendemain, jour de la très sainte croix, le saint, avant le lever du soleil, se mit en prière à la porte de sa cellule et tourné vers l'Orient, il disait « Ô mon Sauveur Jésus-Christ, je vous en prie, accordez-moi de grâce avant ma mort. Faites que je ressente autant qu'il est possible, dans mon âme et dans mon corps, cette douleur que vous avez éprouvée à l'heure de votre cruelle passion. Et puis, que je ressente aussi, autant que le peut une créature, cet amour excessif qui vous embrasait, vous, le Fils de Dieu, et qui vous a porté à souffrir volontiers pour nous, pauvres pécheurs, tant d'horribles tourments. » Saint François persévéra longtemps dans cette prière. Et il connut que Dieu l'exaucerait, et qu'il lui serait donné d'éprouver autant qu'il était possible à l'homme ce qu'il avait souhaité. Dans cette conviction, il se mit à méditer pieusement sur la passion du Sauveur et sur son infinie charité. Et alors, la ferveur de la dévotion s'accroissait si prodigieusement en lui qu'il demeurait entièrement transformé en Jésus-Christ par l'amour et la compassion. Il était dans l'ardeur de cette divine contemplation. Quand soudain il vit descendre du haut des cieux un séraphin qui avait six ailes éclatantes et toutes de feu. Il se précipitait d'un vol rapide vers lui, et bientôt le saint put voir entre ses ailes la figure d'un homme crucifié. Ses ailes étaient disposées de telle sorte qu'il en avait deux sur la tête, deux autres lui servaient à voler, et les deux dernières lui couvraient tout le corps. À la vue de ce séraphin, saint François demeura saisi d'étonnement. Une joie mêlée de tristesse et de douleur se répandit dans son âme. La douce contemplation du Christ qui lui apparaissait si familièrement et qui daignait jeter sur lui de si tendres regards le remplissait de joie. Mais le douloureux spectacle de son crucifiement le pénétrait de compassion et il en avait le cœur transpercé comme d'un glaive. Il admirait surtout profondément que l'infirmité des souffrances du Sauveur parut sous la forme d'un séraphin, sachant bien qu'elle ne s'accorde pas avec l'état de gloire et d'immortalité. Mais bientôt, le séraphin lui-même lui apprit que Dieu l'avait permis ainsi, pour lui faire connaître que ce n'était pas par le martyre de la chair, mais par l'embrasement de l'amour qu'il devait être transformé tout entier en une parfaite ressemblance avec Jésus-Christ crucifié. Alors, toute la montagne de l'Arverne parut comme embrasée par une flamme immense et resplendissante qui s'étendait jusqu'aux montagnes et aux vallées d'alentour. On aurait dit que le soleil était descendu sur la terre. À cette vue, les bergers qui veillaient dans les campagnes voisines furent remplis d'épouvante. Et ils racontèrent plus tard aux frères que cette flamme avait brillé sur la montagne pendant plus d'une heure. Trompés par cette clarté qui pénétrait jusque dans les hôtelleries de la contrée, des muletiers qui se rendaient en Romagne, croyant que le jour était venu, se levèrent, disposèrent leurs mules et se remirent en route. Ce ne fut qu'après avoir cheminé quelque temps qu'ils virent la lumière disparaître et le soleil se lever. Dans cette apparition séraphique, le Christ lui-même daigna communiquer à saint François des choses secrètes et mystérieuses qu'il ne voulut jamais rapporter pendant sa vie. Ce ne fut qu'après sa mort qu'il en fit la révélation. Et voici quelles furent les paroles du Christ. « Sais-tu, disait-il au saint, le prodige que je viens d'opérer en toi? Pour que tu sois mon gonfalonier, je t'ai donné les stigmates qui sont les marques de ma passion. Je t'ai donné les stigmates. Et de même que le jour de ma mort, je suis descendu au limbe, et qu'en vertu de mes plaies, j'en ai retiré toutes les âmes qui s'y trouvaient pour les introduire au paradis, quand tu auras quitté la terre, tous les ans, le jour de l'anniversaire de ta mort, je t'accorde aussi de pouvoir descendre au purgatoire, et en vertu de tes stigmates, d'en retirer toutes les âmes de tes trois ordres, des mineurs, des sœurs et des continents, et même de tous les autres qui auront eu pour toi une grande dévotion, et que tu trouveras dans ce lieu d'expiation. Tu les introduiras toi-même au paradis, et c'est ainsi qu'après m'avoir été conforme pendant ta vie, tu le seras encore après ta mort. » Après un long et mystérieux entretien, l'admirable vision disparut, laissant dans le cœur du saint une ardeur excessive et la flamme de l'amour divin. Et sur son corps, l'image merveilleuse et les traces de la passion de Jésus-Christ. Alors, ses pieds et ses mains furent transpercés par des clous, semblables à ceux qu'il avait vus dans les mains et les pieds du Christ qui venait de lui disparaître. Les têtes de ces clous, qui étaient rondes et noires, se trouvaient dans les creux de sa main et au-dessus des pieds. Et les pointes ressortaient du côté opposé, qu'on aurait pu sans peine y passer le doigt, comme dans un anneau. Au côté droit du sein apparut aussi une plaie rouge, comme s'il eût été transpercé d'une lance. Et souvent, elle jetait un sang sacré qui trempait sa tunique et ce qu'il portait sur les reins. Avant de connaître le prodige dont leur père avait été l'objet, les frères remarquèrent qu'il ne recouvrait plus ni les pieds ni les mains, et qu'il ne pouvait même plus poser à terre la plante des pieds. Ils trouvèrent ensuite, lorsqu'ils voulurent laver ses habits, que sa tunique et son vêtement de dessous étaient couverts de sang, et ces marques leur firent soupçonner dès lors qu'il portait aux mains, aux pieds et aux côtés l'image et la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Malgré tous les efforts qu'il faisait pour cacher ses sacrées et glorieuses plaies, voyant qu'elles étaient trop manifestes pour n'être pas aperçues par ceux qui l'approchaient plus familièrement, et craignant d'ailleurs de publier indiscrètement les mystères de Dieu, saint François douta s'il devait révéler la vision séraphique et l'impression qu'il avait reçue sur son corps. Dans sa perplexité, il fit appeler quelques-uns des frères avec lesquels il était plus intimement lié. Et leur ayant proposé sa difficulté en termes généraux, il demanda leur avis. Parmi les frères qu'il consultait, il s'en trouvait un d'une grande sainteté, appelé frère illuminé. Cet homme, vraiment éclairé de Dieu, jugeant que saint François devait avoir vu quelques merveilles, il lui dit « Frère François, sachez que ce n'est pas seulement pour vous, mais pour les autres, que Dieu vous découvre quelquefois ses secrets. C'est pourquoi vous devez craindre d'être repris d'avoir caché le talent, si vous ne faites point connaître ce qui doit servir à l'édification de plusieurs. » Touché par ces paroles, le saint rapporta à ses compagnons, avec une grande crainte, les détails de l'apparition que nous venons de raconter. Mais il ajouta que Jésus-Christ lui avait dit certaines choses qu'il ne répéterait jamais durant sa vie. En même temps que les sacrés stigmates que le Christ avait imprimés sur lui remplissaient l'âme de saint François d'une vive joie, son corps en ressentait des douleurs extrêmes. Il se vit obligé de se confier à frère Léon, celui de ses compagnons dans lequel il reconnaissait plus de simplicité et de pureté. Il ne lui cacha plus rien, lui laissa voir, toucher et panser ses plaies. Le bon frère faisait tout ce qu'il pouvait pour calmer les douleurs du sein. Il essuyait le sang qui découlait de ses stigmates, changeait les linges quand les souffrances étaient plus vives. Et même, par la suite, il le fit tous les jours, excepté depuis le jeudi soir jusqu'au matin du samedi. Car saint François ne voulait qu'aucun secours humain vînt adoucir les douleurs de la passion du Christ qu'il ressentait en son corps. Un jour qu'il se faisait détacher les linges sanglants de la plaie de côté, dans la douleur qu'il en ressentit, il fit un mouvement, posa la main sur la poitrine de frère Léon, et ce frère en ressentit dans son cœur une douceur de dévotion si suave qu'il pensait tomber évanoui. Après avoir terminé le carême de Saint-Michel-Archange, saint François fut inspiré de Dieu de retourner à Sainte-Marie-des-Anges. Il fit donc appeler frère Massé et frère Ange, leur donna plusieurs avis et leur recommanda surtout, avec toute l'autorité qu'il avait sur eux, de garder soigneusement la sainte montagne de Larverne. Il leur annonça que, pour lui, il devait la quitter et retourner à Sainte-Marie-des-Anges avec frère Léon. Puis, cédant à leurs prières, il leur fit voir, toucher et même baiser ses mains très saintes sur lesquelles étaient imprimés les sacrés stigmates. Et enfin, les ayant bénis au nom de Jésus-Christ crucifié, il descendit de la montagne et les laissa remplis de consolation.